France Culture.
À voix nue, Alexandre Amiel.
Richard Malka, avocat.
Épisode 5. Et vous, Richard Malka, en quoi croyez-vous ? Bonsoir, Richard Malka.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode d'À voix nue qui vous est consacré. J'ai intitulé cette série « La liberté comme religion », car il y a chez vous une ferveur dans votre défense de la liberté qui emprunte parfois délibérément au vocabulaire religieux. Croyez-vous en la liberté comme d'autres croient en Dieu ?
Non. Non, à la limite, j'aimerais bien avoir un Dieu quel qu'il soit. C'est quand même très... Enfin, ça manque. C'est un confort de croire en Dieu. C'est quand on ne croit pas, on est avec des gouffres tout autour de soi. Et puis alors moi, j'ai personne au-dessus. Je vis dans le monde des idées. J'ai pas eu d'enfant, donc je suis un peu en suspension. Parfois, je suis pas très raccroché à la terre, à la réalité. C'est pour ça que j'aime bien jardiner, peut-être. C'est inconfortable, en fait, comme position. Donc, non, je crois pas du tout à la liberté comme à une religion. Je vois aussi que la liberté peut devenir une prison. Que la liberté n'a pas que des avantages, loin de là. Que la liberté peut mener, la liberté sans morale, sans éthique, peut mener n'importe où, et au mal. Non, malheureusement, je suis assez lucide.
Alors, il y a pourtant, pour vous, la mère de toutes les libertés, c'est la liberté d'expression. Et pourquoi est-ce qu'elle est au cœur de toutes les autres ? D'où vient cette sensibilité, cet attachement presque viscéral à la liberté en général et à la liberté d'expression en particulier ?
C'est le garde-fou, en fait. Si vous disposez de votre liberté d'expression, on ne pourra pas vous priver des autres. Si vous l'abandonnez, alors là, toutes les autres peuvent, toutes les autres sauteront les unes après les autres. C'est ce qui fait que les fanatiques ont en horreur la liberté d'expression, que les politiques autoritaires ont en horreur la liberté d'expression parce que ça leur renvoie ce qu'ils sont, et parce que ça peut faire rire d'eux. Et ça, c'est insupportable, parce que c'est communicatif, le rire. Si on pouvait rire de l'ayatollah Khamenei, il ne resterait pas au pouvoir. Tout le monde rirait de lui. Donc il faut interdire le rire des puissants et de Dieu au-dessus. Mais en fait, de Dieu parce que les puissants. Une fois qu'on a interdit le rire de Dieu, on interdit le rire de ceux qui gouvernent. Donc, tant que vous pouvez parler, vous ne vous ferez pas déposséder de votre liberté de voter, de choisir vos dirigeants, de conserver le secret de votre vie privée, de conserver un état de droit, parce qu'il y aura toujours des gens pour défendre ces principes-là et pour montrer l'absurdité et la toxicité des autres systèmes. Donc la priorité de tous les ennemis de la liberté, c'est d'abord d'anéantir la liberté d'expression. Et donc il faut la conserver, ça j'en suis certain. Alors il y a des limites, encore une fois, c'est pas n'importe quoi, mais il faut y être attaché comme à la prunelle de ses yeux, à cette liberté-là. Ça j'en suis absolument convaincu, et des milliers d'années d'histoire derrière nous le démontrent.
Il y a une autre chose à laquelle vous tenez comme à la prunelle de vos yeux, c'est la laïcité.
C'est ma mère.
Et votre mère, évidemment. Est-ce que c'est pas un peu aussi votre mère, la laïcité ? Je ne sais pas. Mais que signifie pour vous cette valeur ?
Ça, c'est un synonyme de liberté, en fait. Ce n'est que ça. C'est dire que l'on veut être régi par la loi des hommes, décidé par des hommes et pas par des dogmes venant du ciel, interprétés par des hommes qui pensent que Dieu leur parle à l'oreille. C'est être libre face à tous les dogmatismes, c'est s'habiller comme on veut, c'est aimer qui l'on veut. c'est manger ce que l'on veut. C'est ça, la laïcité. C'est l'émancipation à l'égard des religions. C'est la création d'un citoyen. La laïcité, c'est pas que la loi de 1905, hein, contrairement à ce qu'on pense habituellement. D'ailleurs, il y a même pas le mot laïcité dans la loi de 1905. La loi de 1905 est une des lois laïques, mais c'est pas la seule. Les principales, c'est d'abord les lois sur l'instruction civique. Quand la loi de la Troisième République et la loi de 1881 aussi, puisque et il y a eu des débats sur la liberté d'expression, il y a eu des débats à l'époque pour savoir s'il fallait pas conserver un délit d'outrage à Dieu et à la religion, et il a été décidé que non, que Dieu ne méritait pas de protection particulière, qu'il se défendrait bien assez bien tout seul.
Alors comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui la laïcité à la française est accusée d'être paternaliste, et encore, je suis poli.
Ah bah là, il y a quelque chose qu'on a loupé dans la transmission, parce que c'est un concept compliqué à transmettre à des jeunes, c'est quand même assez conceptuel. Moi, on m'aurait parlé de laïcité quand j'avais 15 ans, je sais pas ce que c'était, donc on leur demande beaucoup aussi aux jeunes actuellement. Et puis parce qu'il y a eu un travail de sape, qui a été fait par les religieux et par, pour le coup, faut dire les choses, il faut les nommer, par un mouvement de l'islam qui a considéré, mais comme le christianisme a considéré, que la laïcité était son ennemi. Ça a été dur hein, d'imposer la laïcité à l'Église chrétienne. Ça s'est pas fait comme ça au début du XXe siècle. Et donc, il y a eu une remise en cause avec une trahison d'une partie de la gauche qui était le camp qui portait la laïcité contre la droite plutôt imbibée de foi chrétienne. Parce que mal à l'aise, enfin pour des raisons que j'ai évoquées mille fois et que l'on connaît, une partie de la gauche s'est trouvée mal à l'aise à défendre la laïcité qui était son principe face à une partie revendicative de l'islam de France. Et on n'a pas su expliquer que la laïcité, c'était une protection des croyants, des fidèles, contre leur religion quand celle-ci veut se faire prosélyte, dogmatique et liberticide. En fait, la laïcité, c'est d'être du côté des hommes et pas du côté du ciel. C'est une protection. Il y a un travail de pédagogie qui n'a pas été fait. Il y a une lâcheté aussi, beaucoup. Un abandon de populations que l'on aurait dû convaincre que c'était un instrument de liberté, d'abord pour les femmes, en général, pour les minorités sexuelles. C'est aussi ça, la laïcité. Parce que quelle que soit la religion, l'homosexualité est rarement admise comme un bienfait, par exemple. Et les femmes sont rarement les égales des hommes.
Et pourtant, une fois, dans une conversation que vous aviez avec Robert Badinter en marchant au Maroc, il vous avait dit cette phrase, on en parlait à l'épisode précédent, « Vous ne pouvez pas empêcher les hommes d'avoir un besoin de trouver plus grand que soi. »
Oui, et cette conversation m'a marqué, parce que c'est une évidence, en fait. Il a raison. On peut d'abord, c'est compliqué, très compliqué de ne pas avoir de puissance transcendantale dans laquelle on peut consolante en fait, mais c'est ça devient impossible quand vous êtes un paysan du Bangladesh ou un ouvrier à la chaîne d'Anatolie, que vous travaillez 15 heures par jour pour un salaire de misère, vous pouvez pas vivre sans Dieu. Enfin, c'est très compliqué. Vous avez besoin de croire qu'il y a une seconde vie qui sera plus heureuse parce que sinon on devient fou en fait. Donc il faut un plus grand que soi, et il n'y a rien de plus simple que la religion. Les révolutionnaires ont essayé d'inventer une religion républicaine, le culte de l'être suprême pour Robespierre, le culte de la raison, les positivistes aussi avec Comte. Mais en fait, il n'y a rien qui est aussi simple d'utilisation et qui a autant réponse à tout qu'une religion. Et c'est pour ça que j'ai été passer cette nuit avec Voltaire. C'était pour lui demander, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Parce que dans Après-Dieu, justement, dans votre conversation avec Voltaire, vous suggérez une autre transcendance, quoi.
Il en faut une. On ne remplacera pas la religion. Alors, moi, je ne cherche pas du tout à remplacer la religion. En fait, je ne suis pas l'ennemi des religions. Je suis l'ennemi d'une vision des religions. Je suis l'ennemi du prosélytisme, du dogmatisme. Je suis l'ennemi des religions quand elles veulent imposer aux hommes de se comporter comme ci ou comme cela. Après, que chacun ait sa spiritualité, sa croyance, sans emmerder les autres, ça me va très bien. Et j'ai rien à dire là-dessus. Mais oui, comment faire pour que, en gros, la philosophie, la raison, peut-être une vision de l'humanisme, prenne la place de ce grand vide qu'a laissé dans nos pays le fait religieux, pour qu'il ne soit pas remplacé par un autre fait religieux.
Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui être Charlie ? Que ça signifie toujours quelque chose, d'après vous? Est-ce que vous direz que la France, Richard Malka, est toujours aujourd'hui Charlie? Ou bien que d'autres valeurs font concurrence à cette exigence?
Ah bah, il y a une concurrence, ça c'est certain. C'est profondément ancré, hein, quand même, l'esprit Charlie. S'il y a une histoire, ça s'inscrit... la caricature, c'est très lié à la laïcité, par ailleurs. En 1905, les journaux de caricature sont extrêmement puissants. Il y en a de nombreux, ça va très très loin, bien plus loin que Charlie aujourd'hui. Reprenez l'assiette au beurre et d'autres. Les caricatures contre l'Église sont terribles.
Oui, mais ma question, c'est est-ce qu'en 2026, alors, aujourd'hui, oui, la France est toujours Charlie?
Elle est, c'est l'archipélisation là aussi, dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres. Donc il y a un archipel Charlie qui reste puissant, qui s'inscrit dans une tradition historique très forte. Et puis il y a d'autres archipels concurrents et hostiles, communautaristes, qui s'opposent à l'universalisme. Et religieux qui s'oppose à la laïcité. Et puis il y a ce fameux mot de respect dont on a fait n'importe quoi et qui est utilisé pour restreindre la liberté d'expression. Ça existe et ça existe fort dans les plus jeunes générations. Donc c'est inquiétant parce qu'en fait ils vont créer au travers de ce respect leur propre chaîne.
Et c'est comme ça que ça va se finir. Et vous vivez ça comme un échec quasi personnel que les jeunes générations.
Alors non, je vis ça comme un échec de. Oui, parfois je me dis que j'ai à peu près gagné tous ces combats dans des salles d'audience et que je les ai tous perdus. Dans la société, que ce soit sur la laïcité, le droit au blasphème qui n'est plus très utilisé, la liberté d'expression. Mais alors là, pour le coup, je m'auto-flagelle pas. Je pense franchement que j'ai fait ce que je pouvais. Et puis je me dis que faut regarder ça sur le temps long, qu'il faut planter des petites graines, que ça germera. Quand le balancier reviendra, il reviendra du côté de la liberté et qu'il faut laisser des outils pour les générations d'après. Mais on a loupé quelque chose. Et ça va avec tous les problèmes de ce pays. Il faut, mais ça va avec l'idée de la transcendance. Si vous n'avez pas une idée de puissance à exercer, qui n'est pas forcément une puissance militaire, ça peut être une puissance idéologique, intellectuelle, poétique, j'en sais rien, culturelle. Mais vous régressez, vous déclinez. Il faut, c'est Nietzschéen, un peuple ne, et la France en particulier, c'est une idée gaullienne, ne peut pas ne pas se vivre comme étant une puissance, sinon elle disparaît. La France est un des rares pays qui porte une idée universelle, celle précisément d'une société débarrassée de Dieu, libre, celle des droits de l'homme. Une utopie laïque et universaliste. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous réunissait. Si on abandonne ça, alors on devient un amoncellement d'archipels.
En attendant, Richard Malka, vous vivez depuis une dizaine d'années sous protection policière. Est-ce que vous diriez que vous vivez avec la peur au quotidien ?
Non. Non, parce que sinon j'aurais arrêté. On peut pas. Si on a peur, on arrête. Et puis on choisit une autre vie. Et c'est très bien. Et certains l'ont fait. Chacun aurait vraiment fait comme il pouvait. Non, je suis configuré de manière à ce que j'ai bloqué ça dans mon cerveau, ça passe pas. Donc je n'ai pas eu peur. J'ai pas de mérite en fait, parce que je n'ai pas eu peur une seule seconde. Je n'ai pas peur. Donc voilà. J'ai décidé que que ça passerait pas. Le jour où ça passera, je ferai autre chose.
En attendant, la protection policière, c'est une contrainte, quelque chose qui vous fragilise. Comment est-ce qu'on fait pour rester fort et libre mentalement en vivant avec le rappel permanent qu'une menace est sur vous ?
Je sais pas si ça fragilise, mais ça isole encore davantage. Ça, c'est certain. Ça restreint vos libertés parce que vous êtes obligé de prévenir, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'imprévus possibles dans votre vie. De spontanéité. Ça, c'est un peu paradoxal parce que, mais c'est comme ça. Et puis, voilà, il y a pire dans la vie, hein. L'effet majeur, c'est que ça isole. Et là, c'est pareil. Plus des années passent, plus on le ressent, en fait. Et bon, mais c'est comme ça. C'est mon destin.
Est-ce que vous vivez avec l'espoir qu'à un moment, ça s'arrêtera et que vous n'aurez plus besoin de cette protection policière ?
Je me pose pas la question, en fait. Je fais ce qu'on me dit. On m'en donne une, on la retirera. J'essaie de pas me poser la question, parce que sinon, vous pouvez pas vivre dans l'attente comme ça, c'est pas possible. C'est peut-être que je l'aurai toujours. Donc, non, je m'empêche d'y penser, en fait, d'espérer et d'y penser.
Ah, il y a une posture que vous refusez toujours, Richard Malka, c'est celle de victime.
Ah oui.
Alors en quoi elle est dangereuse pour vous ?
Ah, ça m'est insupportable. D'abord, c'est le discours victimaire, c'est la base de toutes les dictatures. C'est la base de tous les fanatismes, en fait. Vous êtes une victime, donc rien n'est de votre faute. Tout est de la faute de l'autre. Donc vous avez tous les droits à l'égard de l'autre. Vous ne vous remettez jamais en question. C'est toujours l'autre qui a tort. Vous ne doutez plus. Le doute devient une trahison. Et par ailleurs, comment être heureux en se pensant victime, en se vivant comme victime ? C'est impossible. On est toujours dans la récrimination, dans l'amertume, dans l'agressivité. Cette idéologie victimaire, on a tous, à un moment ou un autre de notre vie, on a tous été victimes de quelque chose. Parfois, c'est plus grave que d'autres, évidemment, mais on a tous des raisons. On pourrait tous se vivre comme étant victime ou appartenant à une minorité. En fait, c'est un choix. Et les vraies victimes, en général, elles ne choisissent pas de se vivre comme victime. Et ça leur est insupportable. Allez dire à Harris que c'est une victime, il va pas bien vous recevoir. Et pourtant, il aurait des raisons de se considérer comme tel. Donc, oui, ça m'est insupportable. Et puis, on est dans la pure émotion. On arrête de raisonner. On éructe. On réclame. C'est tout ce que je déteste, en fait. C'est tout ce qui me fait horreur. c'est tout ce qui va à l'encontre de ce à quoi je crois, c'est-à-dire que on doit se tenir droit, on doit avancer, on doit faire, on doit créer, on doit faire fi, se battre. Le monde est injuste. Et oui, on part avec des handicaps chacun. Et oui, on traverse des choses douloureuses, difficiles. Mais ça s'en plaindre, c'est narcissique en fait. C'est narcissique. Je sais pas. Faut se dépasser, sinon à quoi bon. Faut aller de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à se battre pour des combats, pour plus de justice, d'égalité, de fraternité, en reconnaissant que certains ont moins de chance que d'autres. Mais faut faire avec. Et faut. Putain, je sais pas, faut combattre. Enfin, c'est la porte ouverte à. Et Mohamed Merah, quand il va exécuter une petite fille de 3 ans, un pistolet sur sa tempe, faut le faire. Hein. Mais lui, il pense qu'il est dans son bon droit. Il pense que c'est juste. L'être humain est fait comme ça. Les terroristes du 11 septembre, ils pensent que ce qu'ils font est juste. Parce qu'ils se pensent victimes, parce qu'on leur a mis dans la tête depuis l'enfance qu'ils sont des victimes. Et donc, ça leur donne tous les droits. Et donc, ils ne font que justice. C'est dangereux comme idéologie. Et s'enfermer dans un statut de victime, c'est ce qui peut arriver de pire à un être humain. C'est mettre une croix sur... c'est que des mauvaises passions, en fait.
En 2021, vous disiez au Monde que vous vous sentiez incapable d'avoir des enfants, Richard Malka.
Moi, j'ai dit ça. Putain, j'en ai dit des choses.
Vous précisez, c'est un engagement trop grand, une limite à l'imaginaire et à la liberté. Mon besoin d'éternité passe par autre chose. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ?
C'était à quelle date, ça ?
2021. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ?
Alors j'ai toujours, là on va dans l'intime. Hein. J'ai plus de mal là. alors j'ai toujours, vraiment, c'était farouche chez moi la volonté de ne pas avoir d'enfants. J'en en voulais pas. C'était quasi hystérique. Ça me tétanisait, ça me terrifiait. J'ai peut-être évolué un peu et c'est devenu davantage une question. Maintenant il commence à faire tard, mais je serai pas aussi hostile à l'idée. Mais ça m'a terrifié très 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 longtemps. Oui, parce que je n'en voulais pas, parce que trop. Et très égoïstement, d'ailleurs, parce que trop de contraintes, parce que j'en éprouvais pas le besoin, parce que je pense que mes livres étaient mes enfants, mes combats l'étaient aussi, et que je voyais trop la perte de liberté que ça pouvait impliquer. Après, j'ai vécu avec des enfants, comme beaucoup, dans le cadre de familles un peu recomposées. Et puis j'ai vu ce que ça pouvait apporter aussi. Et peut-être que j'ai compris que je m'en faisais une idée un peu monstrueuse, comme dans des contes où on extrapole tout, alors qu'en fait, c'était pas. Ça entravait pas tant que ça, un peu quand même, mais ça apportait quand même beaucoup d'amour aussi et une ouverture, et que ça permettait aussi de ne pas tourner autour de soi-même en permanence, ce qui rend fou, ça décentrait, ce qui est utile de temps en temps.
Dans votre premier roman, vous écrivez, Richard Malka, que les avocats n'accèdent pas à la postérité, à moins peut-être d'être Cicéron. Est-ce que c'est une frustration ou c'est un soulagement ?
C'est peut-être pour ça que j'ai voulu écrire des bandes dessinées. Je sais pas. Je me pose pas la question de la postérité, vraiment. Je sais pas quoi vous répondre. Mais c'est vrai, les grands ténors, les grands avocats, on les oublie très vite.
Comme les journalistes.
Mauro Giafferi, plus personne sait qui c'est. Ça a été des stars absolues. Oui, comme les journalistes, effectivement. Ça passe pas le temps. Alors, sauf quand ils font autre chose, comme Robert Badinter.
C'est la loi qu'il a portée, qu'il...
Oui, c'est son activité de ministre, de législateur, qui fait qu'il est rentré dans l'histoire.
En attendant, qu'est-ce qui vous donne encore envie de plaider ? Georges Kiègemann est parti, écrivez-vous, avant le retour du mal, le 7 octobre 2023. Votre père aussi, qui était très orgueilleux de voir les Juifs réussir, est-ce que la résurgence de l'antisémitisme est un combat qui vous préoccupe plus qu'avant ?
Oui, clairement. C'était pas du tout mon... Enfin, si, ça a été mon combat avec Dieudonné, Soral. Mais enfin, c'était pas brûlant. Là, depuis le 7 octobre... Alors, dans un premier temps, c'était un peu un choc parce que c'est la première fois que je ressentais que l'on me regardait comme étant juif.
Que vous étiez essentialisé.
Ouais. Et ça, c'était un vrai choc précisément dans vu ma configuration laïque, j'avais jamais été renvoyé à ça. Je refusais moi-même de m'identifier, de me voir comme ça toute ma vie. C'est le refus de me laisser enfermer dans une case quelle qu'elle soit, et dans celle-là en particulier. Et là, bah c'est comme Sartre, hein. C'est le regard de l'autre qui fait de vous ce que vous êtes, et en particulier, c'est le regard de l'autre qui fait de vous un juif. Donc c'est tout d'un coup, j'ai compris que quoi que je dise.
Vous seriez ramené à ça.
Voilà. Et donc j'ai arrêté pendant des mois, j'ai refusé de prendre la parole publiquement, en particulier sur ce sujet-là. Et puis à un moment, c'était plus possible parce que c'est un combat pour la République. Ça va bien au-delà de la condition juive. Ça concerne tout le monde. Donc j'y suis allé. Donc oui, c'est devenu un de mes combats essentiels, alors que ça ne l'était pas précédemment.
Est-ce que vous pensez que si votre papa était encore là, il aurait aimé entendre cette série d'entretiens qu'on a menés depuis 5 jours?
Oui, probablement certains passages l'auraient mis mal à l'aise. Il aurait sûrement trouvé que j'en disais trop sur moi-même, que je devrais pas dire ceci, cela, mais oui, il aurait aimé parce que j'aurais fait partie pour lui des juifs qui passaient à la radio et dont on parlait à la radio. Et ça c'était la consécration pour lui.
Merci Richard Malka. On arrive au bout de cette série à voix nue qui vous a été consacrée. Je vous dis pas à demain cette fois.
Merci à vous.
C'était à voix nue, réalisation Charlotte Roux, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Maël Larfassor, une série d'Alexandra Miel avec l'aide précieuse de Judith Kravitch, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.